Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. La semaine sainte, ben on est en plein dedans. C'est la semaine chrétienne par excellence car elle culmine avec la résurrection de Pâques. Le jeudi saint, soit aujourd'hui, marque l'institution de l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne selon les pères conciliaires. J'en parle avec mon chroniqueur Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Benjamin, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe, ça va bien?
Ça va très bien. Vous avez partagé cette réflexion sur le site de Salles et Lumières, je pense, non?
C'est exact.
Donc, êtes-vous un régulier là-bas maintenant?
Oui, tout à fait. Je suis un pigiste, on pourrait dire. Donc, évidemment, habituellement, dans cette chronique, on parle de politique et on le fait parce que c'est très important. Mais cette fois-ci, on va parler de l'Eucharistie parce que c'est encore plus important.
Vous avez la foi, ça, c'est indubitable. Vous ne parlez pas comme un anthropologue ou un moraliste. Vous êtes à 200% chrétien, si j'ose dire.
C'est exact.
Mm-hmm. Alors, c'est la... Sur votre texte qu'on peut lire, c'est la période la plus, vous dites, la plus haute et la plus digne période de l'année. C'est de beaux adjectifs, haut et digne. J'ai rarement entendu ça pour la Semaine Sainte.
Bien, on parle souvent dans la culture contemporaine de Noël comme étant supposément la plus belle période de l'année. Puis Noël, c'est une très jolie période. C'est d'ailleurs une fête chrétienne de très haute importance, la seconde en importance après Pâques. Puis pour toutes sortes de raisons, Noël est un peu commercialisé aujourd'hui, un peu trahi, un peu blessé. Mais Pâques...
Un peu beaucoup.
Pâques, on vit ça un peu différemment. Et puis, dans un contexte de confinement comme celui-ci, où les chrétiens sont privés ou presque privés depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des sacrements, je pense qu'il est important d'en discuter et puis de profiter de cette occasion du Jeudi Saint pour méditer un peu sur l'Eucharistie, puis le récit de l'institution de l'Eucharistie, qui est un des grands moments de l'Évangile, puis une des expériences chrétiennes les plus fondamentales. Mais parfois, à l'occasion de la Semaine Sainte, on passe un peu rapidement. On s'intéresse beaucoup au Vendredi Saint, et puis le Vendredi Saint, c'est très important, c'est le jour de la passion du Christ. Mm-hmm. Puis il convient hautement là, de l'honorer et de méditer dans le jeûne et la pénitence le Vendredi Saint. C'est d'ailleurs ce à quoi nous appelle, pour ceux qui le font, la prière du rosaire. On médite les mystères douloureux à tous les vendredis. Mais le Vendredi Saint, c'est l'occasion par excellence de le faire.
Puisqu'on parle un peu des jours saints, on va faire un peu le détail dans deux minutes, Benjamin Boivin. J'ai souvent l'impression que le samedi saint est escamoté. On prépare le gigot, puis on attend. On sait que ça fait 2000 ans qu'on sait que Jésus est ressuscité. Alors pourquoi s'embêter à ne rien faire? On s'affaire pour la fête de Pâques. J'ai l'impression qu'on a vidé le samedi saint. On télescope, on va très facilement de la crucifixion au matin de Pâques.
Ben, la Semaine Sainte est riche de différents éléments, différents aspects qu'on souligne dans les différentes journées du Triduum pascal. Puis c'est tout à fait exact qu'on pense assez peu au Samedi Saint. Ben, on pense assez peu au Jeudi Saint également. On est très préoccupé par le Vendredi et puis le Dimanche de Pâques, qui sont certainement les moments les plus cruciaux, si on veut, parce que la crucifixion, la Passion... C'est la condition sine qua non de la résurrection, si on veut, dans la dynamique de la dramatique chrétienne. Mais aujourd'hui, on va parler un peu plus du jeudi, parce que peut-être encore davantage que le Samedi Saint, on passe à côté, on ne s'intéresse pas tellement à lui. Alors qu'en fait, le Jeudi Saint nous raconte ce qu'on vit en tant que chrétien dans le rythme des sacrements, dans tous les dimanches. L'Eucharistie, c'est le sacrement auquel on est le plus couramment exposé. C'est le sacrement, comme vous l'avez dit, la source et le sommet de la vie chrétienne. Et puis pourtant, on ne réfléchit pas tellement au Jeudi Saint, probablement, parce qu'on se prépare pour la fête de Pâques, un peu comme le Samedi Saint, peut-être.
Alors, le Jeudi Saint, c'est l'institution du sacrement de l'Eucharistie dans les trois évangiles synoptiques, Luc, Marc et Matthieu. C'est la dernière scène. Parenthèse, Saint Jean, lui, ne parle pas d'Eucharistie, il parle du lavement des pieds, qui est... Est-ce qu'on peut parler du lavement des pieds comme un sacrement connexe à l'Eucharistie?
Ben le lavement des pieds est certainement pas un sacrement, mais on le rappelle dans la tradition chrétienne à travers les liturgies par un acte commémoratif, une célébration qui s'inscrit effectivement dans la liturgie du Jeudi Saint. Les fidèles qui vont à l'église le Jeudi Saint, qui ont cette chance dans un contexte un peu difficile comme celui actuellement, vont être exposés au lavement des pieds. Et puis d'une certaine manière, le lavement des pieds raconte une autre partie de l'histoire qui est tout à fait importante. C'est le Christ qui est Seigneur, qui est souverain. et qui en fait, s'anéantit ou s'abaisse dans un rôle de serviteur. Ça, c'est une dynamique qui est très importante dans la vie chrétienne.
Et ce que Pierre ne comprend toujours pas, parce qu'il dit « Non, c'est plutôt à moi de te laver les pieds plutôt que toi qu'à toi de me laver les pieds. »
Pierre comprend difficilement ça, parce que finalement, quand on pense à un Seigneur, quand on pense à celui qui est notre maître, on a difficulté à s'imaginer que c'est lui qui va nous laver les pieds. Habituellement, dans le régime précédent, c'est plutôt les serviteurs qui sont au service du maître que l'inverse. Ben, l'Eucharistie, d'une certaine manière, c'est l'expression la plus radicale de cette dynamique-là, parce que c'est le Seigneur, le Dieu des chrétiens, qui s'anéantit complètement, qui s'efface et qui se fait nourriture pour l'homme. Donc, on est dans un ordre, dans un régime de servitude tout à fait radicalisé, d'une certaine manière.
Est-ce qu'on peut parler de kénose dans ce cas-là? Parce que la kénose, c'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, je pense. Il s'est vidé complètement de lui-même pour s'incarner dans son Fils, je cite de travers.
On parle parfois de dépouillement, d'anéantissement.
Exactement, oui. Ouais, mais c'est la même intelligence, tout ça?
Oui, tout à fait. À mon sens, c'est le Jeudi Saint, c'est peut-être la journée où on pense davantage le Christ de cette manière-là, puis ça se révèle de façon tout à fait absolue dans le Vendredi Saint, où l'anéantissement va jusqu'au bout, jusqu'à la mort physique, et puis au passage dans une période, dans la période des trois jours où le Christ est parmi les morts, finalement.
Pourquoi cette image de manger? Très souvent, des gens qui sont un peu à l'extérieur du christianisme voient les chrétiens et ils les appellent des anthropophages. Je caricature un peu, mais pourquoi, comment dirais-je, manger le Christ pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est d'une violence inouïe?
Bien, vous avez parlé d'image, là, justement. L'Eucharistie, c'est tout un débat, c'est toute une histoire. Est-ce que l'Eucharistie, c'est un symbole? Est-ce que l'hostie consacrée représente le Christ ou est-ce que c'est le Christ? Nous qui sommes catholiques, croyons que dans l'Eucharistie, la présence du Christ est tout à fait réelle. Et puis ça, c'est une question autour de laquelle il y a eu de nombreux débats dans l'histoire de l'Église. Un certain nombre de schismes ou de séparations, notamment à l'époque de la Réforme et de différentes formes de protestantisme. Mais ça, c'est une question qui a toujours suscité la controverse, la confusion, l'inquiétude. Parce qu'après tout, quel genre de Dieu choisit de se faire nourriture pour sa créature? Mais d'une certaine manière, c'est le sacrement qui révèle le plus profondément l'identité du Christ et ce qu'il souhaite accomplir pour nous. Parce qu'il veut... Il veut se faire nourriture pour nous. Il veut entrer en relation avec nous de la manière la plus profonde qu'on puisse imaginer.
Donc, manger c'est la relation la plus intime qu'il puisse y avoir.
Ben, un bon point de comparaison pour comprendre l'Eucharistie, qui a été très utilisé dans les dernières années, notamment par Jean-Paul II, ça a été de comparer l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, au sacrement du mariage. On dit souvent que le sacrement du mariage... sous le rapport du signe, et celui qui représente le mieux ou exprime le mieux un peu l'idée de l'Eucharistie, en ça qu'il unit charnellement et spirituellement les époux de manière définitive. Or, dans l'acte conjugal, l'union est encore moins grande que dans l'Eucharistie, où on parle de manducation. L'union est pleinement consommée. Le rapport entre Christ époux et créature, nous sommes créature épouse, est d'une... fait de nous un avec le Christ d'une manière qui est tout à fait inimaginable. C'est un mystère, c'est le sens étymologique du sacrement.
Pardonnez-moi, Benjamin, manducation, c'est un terme juif, la manducation de la parole. Ça veut dire qu'on la mâche, on la remâche, on l'ingurgite, on la fait sienne. Est-ce que dans l'Eucharistie, il est question de mâcher l'hostie, il est question de ruminer en même temps ou on fait cavaler? Ça a l'air secondaire, mais je veux dire, c'est pas une question de point de vue, mais c'est la symbolique change.
Bien, évidemment, là, vous me posez une question un peu amusante. Là. De quelle manière convient-il mieux de consommer, si on veut, l'hostie consacrée? Peut-être vous pourrez en discuter avec un spécialiste. Ce que je sais, c'est que le fait de si on veut consommer la chair du Christ de cette façon-là, bien, ça nous procure une unité avec lui, ça nous met dans un rapport mystique avec lui qui est inimaginable sans ce sacrement.
Est-ce que l'Eucharistie est donc sous les deux espèces ou pour vous c'est vraiment le corps du Christ ou est-ce que le sang du Christ est de la même importance?
Bien, dans la tradition de l'Église, la communion elle est pleine et entière, qu'elle se fasse sous l'une ou sous seulement une espèce, là, celle de l'hostie, ou celle des deux espèces, l'hostie et le vin consacré. Il y a eu des variations dans l'histoire, mais typiquement, ce sont les prêtres qui reçoivent l'hostie sous les deux espèces. Dans certains cas, par exemple, lors des mariages, les deux époux vont avoir le privilège de recevoir la communion sous les deux espèces. Mais la communion, elle est pleine et entière. Le Christ est entièrement et pleinement présent dans l'une ou l'autre des espèces consacrées.
Revenons à cette question de présence réelle qui a tellement déchiré, fait tellement de discussions. Qu'est-ce que vous, Benjamin, enfin, qui vous connaissez bien cette question-là, ou qu'est-ce que l'Église dit de du mot réel? Est-ce que ce sont vraiment les protéines du Christ? Est-ce que c'est l'âme du Christ? Comment comprendre présence réelle? Moi, aujourd'hui, au 21e siècle, quand on me dit réel, c'est que physiquement, il est là. Or, physiquement, je vois de la farine et de l'eau. Comment comprenez-vous, vous, le mot réel?
On parle parfois du dogme de la question de la transsubstantiation.
Exact,
si
oui.
Tu veux, la substance de l'hostie consacrée, oui, et partage l'identité du Christ, si l'on veut, là. Peut-être on pourrait avoir une discussion encore plus détaillée ou plus dogmatique sur cette question. Mais lorsque l'on reçoit l'hostie consacrée, il est réellement, pleinement et tout à fait présent. C'est le Christ, c'est lui qu'on reçoit. Et d'ailleurs, lorsqu'on pratique, c'est devenu de plus en plus courant dans les dernières années, après être passé de mode, lorsqu'on pratique l'adoration eucharistique, on se met dans un rapport un peu similaire, mais d'une certaine manière différent. On voit le Christ dans l'hostie qui est placé dans un ostensoir et puis on le contemple, on est présent à lui par l'adoration eucharistique. Il y a d'ailleurs des sœurs et des frères à Montréal qui pratiquent l'adoration perpétuelle. C'est une pratique spirituelle qui a de nombreux mérites. Mais c'est certain qu'on est dans l'ordre du mystère. Là. C'est pas, on n'est pas dans les cinq voies de saint Thomas d'Aquin pour connaître l'existence de Dieu par la rationalité grecque. Évidemment, c'est de l'ordre des vérités qui sont révélées.
Alors là, je me méfie d'une chose, pardonnez-moi, Benjamin. Quand on n'a plus la réponse, on dit « Ah, ben c'est un mystère », et puis « Rentre chez toi et c'est un mystère », puis ça s'arrête là. Il ne s'agit pas de douter, de pousser l'intellectualisme à outrance, mais beaucoup de gens achoppent encore une fois sur ce mot réel. Et là, je ne veux pas faire mon protestant, si vous voulez, je veux dire, mais il y a quand même une question. Vous parlez de transsubstantiation, c'est qu'une substance devient une autre, c'est un mystère, je veux bien. Ça répond à moitié à ma question.
Ah ben, l'autre
c'est
dimension.
C'est pas mal.
Il y a une partie de l'entreprise de la conversion, si tu veux, de l'expérience chrétienne qui consiste à une démarche intellectuelle qui peut nous amener assez loin, finalement, dans la compréhension des vérités enseignées par l'Église. Il y a un certain nombre de choses, notamment relatives à la morale, mais également à l'existence de Dieu dans une perspective de religion naturelle, que notre intelligence peut faire par elle-même. Mais il y a également un certain nombre de choses que le Christ, c'est-à-dire le Verbe incarné, le Logos, la raison, que le Christ nous révèle et que l'Église rumine à travers sa tradition. Et puis, pour ces questions-là, finalement, on peut accepter la révélation chrétienne, être convaincu par si on veut, la saine cohérence entre la dimension purement rationnelle et puis la dimension révélée de la foi. Mais il y a un acte de foi, il y a un acte volontaire et libre. C'est ce que nous demande Dieu, finalement, c'est de lui faire confiance. Et puis, le mystère de l'Eucharistie, il est expliqué, il est donné dans le récit évangélique. Il nous est pas permis d'en faire une interprétation édulcorée ou une interprétation diète, si on veut, là, parce que c'est difficile à croire.
Je me remets à la place des premiers disciples, des apôtres qui sont présents à la scène. Ils ont, par rapport à nous, l'avantage d'avoir Jésus-Christ physiquement là, qui leur dit « voici mon sang, voici mon corps ». L'expression est mauvaise, mais ça permet de faire passer la pilule plus facilement. On le comprend davantage, on a Jésus-Christ devant nous en chair et en os, et on l'aime, etc. Bon, à 2000 ans de distance, je vois un bout de pain. Ça prend tout mon petit change de foi pour pouvoir embarquer là-dedans. Je ne veux pas jouer aux sceptiques, mais il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent se dire, bon, alors poussons Benjamin un peu plus loin dans cette voie-là.
Ah ben justement, mais l'Eucharistie, c'est ce qui rend le Christ présent à nous à notre époque. il est par l'Eucharistie, là, présent à nous, d'une certaine manière, comme il était présent aux apôtres à l'époque où il était, où il marchait sur le sol, où il vivait comme un homme sur la terre. Il vivait en tant qu'homme sur la terre, devrais-je dire. Et puis l'Eucharistie, c'est ce par quoi il nous est donné présent d'une manière tout à fait réelle. Puis évidemment, la tentation est forte d'édulcorer et de réduire ces mystères-là.
Pas de réduire, juste d'essayer de comprendre au maximum de nos capacités. Ne pas sauter trop vite au mystère, d'abord voir la limite de ce que l'on est capable de comprendre et ensuite déboucher sur l'océan de l'inconnu ou du mystère.
Oui, c'est certain, mais ce que je voulais dire, c'est pas que tout questionnement de l'Eucharistie consiste en une éducoration ou une surintellectualisation. Au contraire, l'Église, dans la richesse de son enseignement et de sa tradition, a médité la question de l'Eucharistie d'une façon très profonde. Il y a eu un certain nombre d'encycliques, même assez récentes, à l'époque de Jean-Paul II, qui se sont penchés sur cette question-là. Et puis, on peut contempler ce mystère-là avec notre intelligence. Mais il est certain que lorsqu'il est question d'un mystère, là, le mystère est proche du sacrement. D'ailleurs, les orthodoxes parlent de mystère pour parler des sacrements. Lorsqu'il est question d'un mystère tel que celui de l'Eucharistie, il faut être capable d'adapter notre intelligence, d'utiliser les moyens de notre intelligence de façon adaptée à l'objet. Et puis, le mode de connaissance approprié pour comprendre des choses comme l'Eucharistie, ben, c'est le mode de foi.
Oui, effectivement, oui. Et il nous reste 3 minutes, ou 4 même, chanceux. Benjamin Boivin, ça c'est le Jeudi Saint. Le Vendredi Saint, évidemment, tout le monde, vous le disiez en introduction, enfin au début, c'est-à-dire que, oui, les deux piliers courants sont le Vendredi Saint et Pâques, et puis jeudi et samedi passent un petit peu sous silence ou en arrière-plan. Le Vendredi est quand même, c'est une très belle journée. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des offices absolument... le mot extraordinaire n'est pas convenable. Mais on est dans une autre temporalité, une autre dimension. Il y a quelque chose d'absolument... d'une tristesse inouïe.
Oui, et puis je pense que c'est particulièrement important, en fait, pour le Vendredi Saint de se mettre dans un contexte où il est possible de mieux s'imaginer l'expérience du Christ juste avant la croix et sur la croix. On peut s'exposer à la liturgie. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on fait. Et puis ceux qui pourront le faire parmi nos auditeurs le feront sans doute. Mais il y a également d'autres moyens. Il y a un excellent film de Mel Gibson qui a suscité un peu de controverse à l'époque, mais bon, moi je le trouve excellent, qui s'appelle La Passion du Christ et par lequel on peut s'exposer à l'expérience du Christ sur la croix d'une façon qui est, à mon sens, tout à fait salutaire. Le contact avec ce film-là ou avec des films du même genre peut nous parle de l'amour du Christ pour nous, puis du sacrifice, de la dimension sacrificielle de son acte, mais également de l'Eucharistie, pour revenir au thème de notre discussion.
Benjamin Boivin, vous parlez de surintellectualiser le mystère de l'Eucharistie, mais là, avec le film de Gibson, on n'est pas en train de sursentimentaliser ou surémotionnaliser la crucifixion?
Mais c'est une critique que certains ont fait. Il est vrai que c'est un film qui comporte une dimension romantique ou une dimension très violente. Je pense que par ailleurs, il nous permet de mieux comprendre la réalité de la violence de cette époque-là, puis de la violence à laquelle le Christ a été exposé. Nous vivons dans des sociétés assez confortables où la violence physique est généralement peu commune. Lorsqu'elle se trouve, elle est cachée. Elle est cachée derrière les frontières, elle est cachée derrière les murs. Et puis, de comprendre l'expérience de la passion du Christ, la dimension proprement sacrificielle de l'agneau de Dieu, qui est vécu dans cette passion-là. Moi, je pense que c'est très important. Et ceux qui en ont été témoins à l'époque, probablement ont été édifiés, en fait, par la profondeur de la kénose, justement, du dépouillement, de l'abaissement du Christ. Ça fait partie du mystère. Il faut s'y exposer, même si ça fait mal, même si c'est choquant.
En une minute, Benjamin Boivin, le vide qui s'ensuit, comment est-ce que vous allez le vivre cette année?
Le vide, qu'est-ce que vous voulez dire après la période?
Jésus meurt en croix et c'est un ratage apparent. Ses disciples se sont éparpillés. Je veux dire, c'est pas formidable jusqu'à Pâques. Il faut vivre ce vide-là.
C'est vrai que puisqu'on connaît l'histoire, puisqu'on connaît la fin, on n'est pas comme les apôtres, exact. On n'est pas des acteurs qui connaissent pas la fin, voilà, de l'histoire. Il faut faire un effort plus intense, un effort plus particulier pour se mettre dans l'esprit. Mais après tout, la nature de la Semaine Sainte, la fin de la Semaine Sainte, c'est un message d'espérance. Et puis, il faut pas. Je pense qu'il y a absolument rien de bon à se mettre dans un état de déprime volontaire pour mieux apprécier la joie du temps pascal. Après tout, on arrive au sommet de l'histoire, et puis, oui, après ça, on entre dans une période de fête qui dure un certain nombre de semaines et pour laquelle on peut se réjouir.
Benjamin Boivin, merci beaucoup pour ces propos sur l'Eucharistie et plus généralement sur la Semaine Sainte. Joyeuse Pâques, bonne montée à vous d'abord, Joyeuse Pâques, et on vous retrouve dans deux semaines.
La même chose pour vous, à bientôt.
Merci beaucoup, Benjamin. Voici, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de Saint François de Paule. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Vous donne rendez-vous demain et entre-temps, vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.